France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, c'est l'heure de l'invité du 5-7. On a un petit souci ce matin, on est en train de le joindre. Il y a un petit problème, ça va le faire. Ça y est, on l'a, on me dit en technique, super. Alors on vous a, merci, bonjour Christian Bûcher.
Bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Je vous ai invité ce matin pour revenir sur cet incroyable, comment je pourrais dire, blocage du canal de Suez, hein, avec la mer Rouge et la mer Méditerranée qui ont été transformées en gigantesques parkings à bateaux. Il y a plus de 350 navires coincés de part et d'autre de ce canal, puisque donc ce porte-conteneurs en bloque l'accès depuis presque une semaine maintenant. Il s'est échoué en travers et c'est tout le commerce maritime mondial qui s'en trouve ébranlé. Les autorités égyptiennes espéraient pouvoir le dégager hier soir. On en est où ce matin ?
Écoutez, aux dernières nouvelles, a priori, il est toujours bloqué. J'ai pas eu d'informations particulières sur ce sujet-là. Bon, je dirais c'est la manœuvre un petit peu de la dernière chance, parce qu'on bénéficiait d'une marée un peu conséquente avant d'attaquer une dernière phase si le navire ne bougeait pas. D'ailleurs, le président égyptien Sissi a ordonné que, en cas d'échec, eh bien, on puisse dégager un certain nombre de conteneurs sur l'avant du navire. Enfin bon, il y a lieu d'espérer, mais vous savez, je pense que dans les heures, dans les jours qui viennent, on va réussir à le dégager, mais ça va pas tout régler pour autant. On estime qu'il faut encore entre 3 et 6 jours pour, je dirais, éponger tous les retards. Parce que c'est 50 navires par jour, ça fait 6-7 jours maintenant. Donc on a 400 navires qui sont totalement bloqués. Donc le temps, vous savez, une fois que le bouchon est parti, ils vont pouvoir repasser par le canal de Suez. Mais ça veut dire que beaucoup de navires vont attendre devant des ports parce qu'il n'y a pas de place dans tous les ports pour tous les navires. Donc ça va être compliqué.
Donc ça a déréglé une grande partie du commerce maritime mondial.
Ça l'a déréglé, ça va le dérégler, on estime encore pendant 15 jours ou 30 jours, si dans les heures, dans les jours qui viennent, on peut immédiatement le débloquer le passage. Donc, vous voyez, ça va prendre un certain temps. Un navire qui arrive dans un port, c'est prévu de longue date, il y a les camions qui doivent attendre. Un porte-conteneur comme celui qui est bloqué, mais il y a encore plein de porte-conteneurs derrière, c'est quasiment, si vous voulez, 10 000 camions pour décharger cela. Donc vous voyez à peu près tout ce que ça suppose.
Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement et même des risques de pénurie ?
Alors, de pénurie, peut-être pas d'approvisionnement. Oui, oui, d'approvisionnement hanté. Vous avez 130 000 moutons qui sont bloqués, donc ça pose des pires problèmes. Les autorités égyptiennes sont en train de faire parvenir du fourrage. Il y a des équipes de vétérinaires sur place. Il y a des mobs de grandes compagnies qui n'arriveront pas à temps. Donc, le consommateur final, ben, peut-être qu'il attend, je sais pas, tel mob, tel produit en fin de semaine, il ne l'aura pas. Il l'aura un peu plus tard. Donc, c'est vrai que ça pose quelque chose, vous savez. Puis surtout, c'est peut-être les produits, les semi-conducteurs, moi, qui m'inquiètent le plus. On a beaucoup parlé de pétrole. Enfin, le pétrole, d'abord, ça peut ne concerner que le pétrole du Moyen-Orient. Ça pose les approvisionnements de pétrole pour la Syrie parce que c'est un pays qui est en guerre, qui n'a pas de réserves stratégiques. Mais nous, en Occident, nous avons des réserves stratégiques. Par contre, les semi-conducteurs, vous savez, ces espèces de puces, ces éléments qui servent dans l'industrie automobile, dans tout ce qui est machine-outil, qui servent bien sûr dans l'informatique. Et on sait ô combien c'est nécessaire et ô combien il y a des flux tendus dans ce domaine à cause justement du télétravail. Donc tout ça pose déjà un certain nombre de problèmes.
Et on a une estimation de ce que va coûter au global cet incident et surtout qui va recevoir la facture ?
Alors après la facture, elle va être tellement disséminée qu'on ne s'en rendra pas compte, sauf que finalement, in fine, ça sera le consommateur final qui finira par la payer, alors pas dans les 15 jours, mais progressivement. Si je me fie à l'assureur Allianz, pour qu'il me semble donner des chiffres intéressants, c'est entre 6 et 10 milliards par jour que cela coûte au commerce international.
Tout ça à cause d'un bateau ?
Tout ça à cause d'un bateau, mais vous savez, je compare un peu les flux maritimes à la circulation sanguine. Bon, il y a des endroits où c'est des petits vaisseaux, ça pose pas de problème, mais les canaux, qu'il s'agisse de Suez, de Panama et les détroits, Malacca, Hormuz par exemple, dites-vous bien que ce sont des artères. Le canal de Suez, c'est la route la plus directe pour aller d'Asie en Europe. Si vous ne prenez pas cette route, il faut passer par le sud de l'Afrique, c'est-à-dire contourner le cap de Bonne-Espérance. Ça fait 9000 km de plus. Ça fait une consommation de pétrole à peu près de 30% de plus. C'est plus d'émissions de CO2. C'est entre 8 et 10 jours de plus. Alors, je sais bien que les Russes profitent de cela en disant, mais il y a une autre route possible. C'est le passage du nord-est, etc. Mais c'est surtout pas à faire.
Oui, parce que la Russie milite pour l'ouverture d'une route maritime à travers la banquise dans l'Arctique.
Bien évidemment, vous imaginez qu'un bateau qui passe au canal de Suez, c'est entre 400 000 jusqu'à parfois 600 000 dollars le passage. Donc ce sont des milliards que ça rapporte à l'Égypte. C'est la troisième source de rapport du gouvernement égyptien. Donc vous imaginez que la Russie, qui a besoin aussi de sous, aimerait bien. Mais qu'est-ce que ça poserait comme problème? D'abord, dans le passage du Nord, il n'y a pas assez de ports sur toute la côte sibérienne. Si bien qu'en cas d'avarie, en cas de difficulté, il n'y aurait pas de port refuge. La couverture satellitaire n'est pas suffisante. Donc les conditions de sécurité, si vous voulez, ne seraient pas totalement assurées. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait à proscrire. Puis imaginez une catastrophe maritime au niveau de l'Arctique, qui est une zone riche et particulièrement intéressante en termes de biodiversité, ça poserait des problèmes. Donc on voit à quel point il faut aussi peut-être maintenant mettre sur ces canaux, mettre sur ces détroits, des navires de secours, je pense à des gros remorqueurs, pas les 8 petits remorqueurs que nous avions au début. Bon, les choses vont avancer parce qu'ils ont fait venir deux grands drats qui, depuis 2 jours, ont aspiré quand même 17 000 mètres cubes de sable.
Hein, jusqu'à 10 jours
mètres de profondeur.
Ah oui.
En 2 jours. Donc oui, les choses avancent considérablement.
Vous dites
qu'il y a une chose qui aspire, qui refoule plus loin.
Vous dites qu'il va falloir repenser à l'avenir peut-être des solutions pour éviter ce genre d'incident avec des gros remorqueurs, mais est-ce qu'il ne faut pas se poser aussi la question de la taille de ces bateaux qui empruntent le canal?
Écoutez, ça, je suis moyennement convaincu. Je sais bien que dès qu'il y a un incident de ce type-là, on critique le gigantisme. Mais soyons clairs, il va y avoir 3 milliards de terriens en plus d'ici 2050. Ce qui fait beaucoup. Ça fait 3 fois la population mondiale de l'époque de Napoléon Ier. Hein. Si on n'a pas des bâtiments de cette taille-là, ça veut dire aussi qu'il faudra beaucoup plus de navires. Beaucoup plus de navires, c'est beaucoup plus d'entretien, beaucoup plus de navires mal entretenus, beaucoup plus de risques de collision. Donc le problème, il n'est pas là. Par contre, vous posez une question qui m'intéresse beaucoup, parce que la question que je me pose, on est obsédé par le canal de Suez, mais si jamais un gros porte-conteneurs comme ça, de 220 000 tonnes, avaient des avaries dans une mer un peu déchaînée, dans la Manche par exemple, près de chez nous. Est-ce qu'on aurait aujourd'hui des remorqueurs suffisamment puissants pour les tirer? Alors, si la mer est d'huile, ça ne posera pas de problème. Mais si la mer est un peu déchaînée, je ne suis pas sûr que nous ayons un remorqueur suffisamment puissant. Le gigantisme s'est développé, mais le gigantisme n'a pas encore atteint véritablement les moyens en proportion de sauvetage.
Et agrandir le canal, c'est possible ça ou pas?
Ah bah oui, sur la 16, vous savez, le canal de Panama a été quasiment doublé ces dernières années. Concernant le canal de Suez, des travaux se sont achevés en 2015 et le président égyptien a encore prévu toute une tranche de travaux jusqu'en 2023. Plus Panama, je dirais, élargit et permet ainsi le passage de navires, plus il y a une concurrence sur Suez. Donc ces canaux ne cessent effectivement d'être augmentés, doublés. Un navire comme celui-ci, il n'aurait pas pu passer il y a encore 5-6 ans.
Merci Christian Bucher, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Vous avez écrit notamment « La grande histoire vue de la mer » parue au Cherche Midi. France Inter.